cherche le bonheur dans les cartes. On cherche mais on ne le trouve pas. Pourquoi faut-il toujours qu'on parte alors que l'Eldorado est là? On veut voler de nos propres ailes. C'était le rêve de nos aïeux. Elle est pas si loin, l'étincelle. Il suffit qu'on ouvre les yeux et vous s'élever.
Bienvenue sur Radio Altitude dans l'émission du Piment dans le Punti, donc dans le cadre de l'émission Auvergne Solidarité Internationale. Et ce matin, donc, nous sommes avec Anis Étoilé, agriculture, nutrition, interculturelle, solidarité, et avec Céline Porcheron. Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors ce matin, donc, vous allez nous parler de petite interview que vous avez réalisée donc avec Ibrahim Sarr, qui est responsable du réseau d'horticulteurs de CAI au Mali. Donc nous partons au Mali sur la route de l'agroécologie.
Oui, effectivement, Ibrahim Sarr a été reçu par le CCFD pendant quelques jours en tournée donc sur le département du Puy-de-Dôme et le département de l'Allier.
Le 30 mars, je crois, il était à Clermont-Ferrand.
Voilà, le 30 mars, on a organisé une grande soirée sur l'agroécologie avec une table ronde qui incluait différents experts présents, enfin qui travaillent localement, avec Ibrahim Sarr. Et donc moi, j'ai participé à la table ronde au nom d'Anis Étoilé.
Et vous avez eu l'occasion de l'interviewer le matin.
Donc et sur voilà, quoi vous l'avez interviewé? J'ai demandé à le rencontrer avant et pouvoir l'interviewer pour notre émission d'aujourd'hui. Et pour avancer sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Donc bien sûr, connaître sa structure, ce grand réseau est énorme. Hein. C'est des milliers en fait d'horticulteurs et surtout des horticultrices qui sont impliquées tout autour de CAI, qui est une très grande ville à l'ouest du Mali. Donc surtout nous présenter leur implication dans l'agroécologie, comment ça se traduit concrètement. Bien sûr aussi tous les produits, tous les légumes qu'ils produisent, mais aussi il y a aussi de la production agroforestière, donc aussi les produits donc des arbres. Comment ils vendent ça sur leur marché, en local ou exporté. Voilà, on a discuté de ces choses-là. Et la dépendance aux semences, les semences de légumes qui sont majoritairement importées. Avec la place des multinationales, la place de la recherche locale, comment elle est financée, et du coup, quels outils elle peut proposer. La terre, l'accès à la terre, c'est un gros souci aussi, encore au Mali, avec la problématique de l'accaparement des terres. Et puis, bien sûr, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir la vision d'un Africain, d'un responsable de structure comme ça, qui regroupe quand même beaucoup de monde, sa vision sur le développement de l'agriculture à moyen terme, quoi, au Mali, mais aussi dans le reste de la zone d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'était super intéressant. On a pu échanger pendant une demi-heure à peu près. Donc l'interview dure à peu près une demi-heure.
Alors donc nous allons partir au Mali donc sur les pas d'Ibrahim Sarr, donc réseau d'horticulteurs de CAI au Mali sur l'agroécologie.
Alors on va le développer en deux parties, comme il est un peu long.
Bonjour monsieur Ibrahim Sarr, vous êtes le responsable du réseau des maraîchers de CAI au Mali. CAI, c'est une ville qui est située à l'extrême ouest du Mali, donc à la frontière avec le Sénégal et la Mauritanie. Et c'est une région donc à la limite du Sahel. Enfin, vous pouvez nous préciser le contexte?
Merci de me donner l'occasion de parler de mon pays, de mon organisation. Je suis agronome de formation et je travaille avec le réseau des horticulteurs de CAI. Ça ne fait pas que du maraîchage, mais du maraîchage et de l'arboriculture fruitière. C'est une organisation fêtière de 107 organisations membres qui fait à peu près 24 700 producteurs à l'échelle de toute la région de CAI qui travaillent pour le renforcement des capacités des producteurs dans la maîtrise des facteurs de production tels que l'eau, la terre, les intrants, mais aussi le capital et faire en sorte que les décisions prises par l'État malien en termes politique agricole ne pèsent pas trop sur les petits producteurs. Parce que si on prend la politique de l'État, elle se manifeste par le soutien à deux axes. Le premier axe, c'est le soutien à l'entreprise agricole. Et le second axe, c'est le soutien à l'agriculture familiale. Moi, mon réseau se situe dans ce volet. Ça veut dire l'agriculture familiale. C'est des petites exploitations agricoles, un maraîchage, principalement de femmes, plus de femmes que d'hommes. À peu près 70% des membres du réseau sont des femmes qui ont des petites parcelles au niveau des points d'eau, près des points d'eau, et qui exploitent en produisant des légumes. Les fruits représentent le champ d'action des hommes surtout, mais pour ce qui est des légumes maraîchers, ce sont les femmes qui se sont spécialisées là-dessus. Donc le réseau intervient pour les aider à faciliter une production, mais une production dont ils maîtrisent les tenants, notamment les intrants.
24 000 personnes, c'est énorme en fait, 24 000 producteurs dans un seul réseau. Mmh. Et ça, c'est né, donc, c'est né comment en fait ce réseau ?
Alors, ce réseau est né d'un programme qu'une ONG française mettait en œuvre au niveau de la région de Kayes. Cette ONG s'appelle le GRDR, Groupe de réalisation pour le développement rural dans le tiers-monde. Et l'un des résultats attendus de ce programme était l'émergence d'une organisation fêtière locale pouvant être en mesure de conduire elle-même le développement de l'horticulture, le développement de l'agriculture de façon générale. Effectivement, en 2005, ce réseau a vu le jour à partir des leaders paysans qui accompagnaient le GRDR dans la mise en œuvre de ce programme et qui ont entamé une action d'information et de sensibilisation dans le reste du territoire afin d'inciter les éventuels producteurs à s'associer afin de former un réseau. En 2006, il y a eu l'Assemblée générale de ce réseau qui a mis en place une structure fêtière à l'échelle de l'ensemble de la région. Elle a été accompagnée dans un premier temps par la collectivité région de Kayes, qui s'est aussi appuyée sur les partenaires de la coopération décentralisée de la région de Kayes en France, à savoir la région Nord-Pas-de-Calais et la région Île-de-France, qui ont accompagner les premiers pas du réseau des horticulteurs de Kayes. Ensuite, il y a des organisations de solidarité internationale, telles que le CFSI, qui a accompagné le réseau pendant plus de 3 ans à travers plusieurs programmes, et ensuite le CCFD de Terre Solidaire, mais aussi d'autres coopérations qui sont au niveau du Mali, et qui travaille dans le cadre de la promotion de l'agroécologie.
D'accord, on peut dire que c'est vraiment une grande réussite, du coup, cet appui, en fait, ces échanges avec la France, en l'occurrence, pas que, mais ce soutien de partenaires européens, du coup, a vraiment permis un développement à grande échelle.
Je peux dire que la réussite aujourd'hui, s'il y a réussite, elle est fondamentalement due à cet appui d'organismes français, qui ont accompagné le réseau à être autonome en termes d'intrants agricoles. Et le CFSI a joué un très grand rôle dans ce domaine. Et le CFD a pris le relais en essayant de mettre l'accent sur la promotion de l'agroécologie de façon générale.
Justement, à ce propos, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que vous aviez une agriculture qui utilise massivement des intrants extérieurs. Et on a évolué vers l'agroécologie, ou est-ce qu'on a toujours utilisé des techniques naturelles ? Enfin, comment ça s'est passé en fait ?
En fait, la région de Kayes, contrairement à d'autres régions, notamment la région de Ségou, quelque part la région de Koulikoro, qui ont été des zones sous influence de la monoculture de coton et de riz, toutes choses qui utilisent des intrants chimiques, énormément d'intrants chimiques, pour non seulement fertiliser les terres et les cultures, mais aussi traiter ces produits contre les ennemis des cultures. Donc, contrairement à ces deux régions, la région de Kayes n'était pas très affectée par ces intrants importés qui ont joué une action assez négative sur l'environnement. Par contre, vers le sud de la région de Kayes, on commençait à avoir une agression de certaines, notamment de la CMDT, qui a introduit le coton. Et vous savez que le coton est quand même une plante très très exigeante, non seulement en engrais, mais aussi en produits phytosanitaires et qui est largement utilisé pour traiter la plante de coton. Donc, la région de Kayes n'était pas dans une logique d'utilisation à grande échelle d'intrants chimiques. Je pense que c'est ce qui a facilité d'ailleurs le travail du réseau pour essayer de les maintenir dans cette dynamique et loin de l'influence de ces grandes firmes qui importent ou qui accompagnent les producteurs dans leur exploitation. Cependant, ce n'est pas que les engrais et les pesticides, mais il y a aussi la semence qui est un enjeu extrêmement important dans la production maraîchère. Et la plupart des semences sont des hybrides de première génération, donc ils ne sont pas reproductibles par les paysans. Ils sont obligés toujours de se référer à ces fournisseurs de semences pour pouvoir travailler tous les ans. Notre travail consiste à les rendre résilients par rapport à leurs semences, en choisissant ou en ciblant des semences d'abord qui s'adaptent à leur écologie, mais aussi qui peuvent être reproduites par les paysans eux-mêmes et les garder pour les années qui suivent. C'est des activités de ce genre à travers la semence, à travers les fertilisants et à travers des produits naturels de traitement des plantes en cas d'attaque ou en cas de maladie des plantes. Ceci dit, tout n'est pas rose, notamment dans le cadre du traitement des plantes contre les maladies. Toutes les méthodes agroécologiques que nous utilisons jusque-là ne sont pas toutes efficaces contre certaines maladies. Donc, il va falloir faire recours à des produits chimiques au cas où la solution biologique ne parvient pas à satisfaire les paysans. D'où une prise en compte de ces difficultés réelles dont on n'a pas de solution pour le moment.
Au niveau des techniques agroécologiques, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples en fait, qui sont utilisés pour limiter l'utilisation de produits chimiques en fait.
Alors, l'agroécologie, ce n'est pas que seulement pour se passer de produits chimiques, mais c'est aussi l'ensemble des techniques ou des savoir-faire que nous mettons en place pour préserver et protéger le sol, pour préserver et protéger l'eau et pour promouvoir la biodiversité au niveau des cultures, pour lutter contre les effets du changement climatique sans pour autant faire face à des moyens colossaux. Donc, c'est tous ces genres de techniques. Concrètement, nous préconisons beaucoup l'association des cultures au niveau des exploitations. Nous préconisons beaucoup la rotation des cultures au niveau des parcelles. Nous préconisons des petites techniques de lutte contre l'érosion des sols à travers des méthodes mécaniques en utilisant des pierres, les cordons pierreux pour pouvoir limiter la dégradation des sols. C'est des techniques de conservation de l'eau à travers des techniques de semis qui puissent permettre à n'importe quel type de sol de conserver et l'humidité pendant un certain temps. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au Sahel et qu'il pleut moins. Et que le peu de pluie aussi qui tombe, la plupart est ruisselée vers les eaux, à travers le fleuve ou les rivières. Donc, nous utilisons ces techniques du zaï, par exemple, faire des trous de semis suffisamment larges pour pouvoir emmagasiner de l'eau qui puisse conserver l'humidité autour de ces plantes. C'est aussi des demi-lunes que nous mettons en place pour pouvoir conserver non seulement de la matière organique, mais aussi de l'humidité dans ces différentes zones. Et du coup, ça limite l'érosion aussi du sol. Donc voilà un ensemble de techniques qui ne peuvent se faire aussi si les paysans ne se mettent pas ensemble. Parce que aménager une parcelle d'un hectare en demi-lune ou en zaï, ça nécessite une main-d'œuvre et ça nécessite une certaine solidarité entre les paysans qui sont dans cette localité. Et ce travail est fait en groupe. Tout le monde se met ensemble pour aider X à réaliser ses différents travaux de conservation de l'eau et du sol. Et après, on passe sur le prochain pour réaliser la même chose. Cet effet de solidarité entre les paysans d'une même localité est aussi une valeur importante en agroécologie que nous essayons de préserver.
C'est très intéressant. Cette année, du coup, dans le cadre du Festival alimentaire, hein, auquel vous avez déjà participé, on aura un film qui montre justement le zaï.
Ah.
Voilà, à travers le portrait de Yakuba Sawadogo, donc qui a reçu le titre de champion de la Terre 2020 par l'ONU. Film d'animation qui s'appelle Tapis Vert. Et lui, c'est la forêt qui l'a fait redémarrer dans son village, donc au Burkina Faso.
Absolument.
Mais avec cette même technique. Globalement, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les freins qu'on a par rapport... là, on voit qu'au niveau de CAI, ça a bien marché, le développement du maraîchage. peut-être vous approvisionnez une partie du Mali ou c'est juste le marché local. Comment ça se passe au niveau de la vente, enfin, de la distribution des produits? Et est-ce que vous êtes confronté à la concurrence de produits importés? Vous avez dit par rapport aux semences, mais est-ce qu'aussi par rapport aux produits finis, vous avez aussi des soucis avec la concurrence internationale? Ou comment ça se passe en fait au niveau du marché?
En fait, pour l'instant, au niveau du marché, il n'y a pas une pression très très forte qui agit sur les produits finis, produits localement. Les cibles, ça veut dire les marchés potentiels de nos produits, c'est essentiellement le village de production. Et tout autour du village de production, ça veut dire les petits marchés qui sont autour des zones de production. C'est un marché qui peut déjà consommer les différents produits que nous produisons.
C'est très local.
Et nous ciblons aussi les villes périphériques, notamment la ville de Kayes. Nos producteurs sont au niveau des cercles, au niveau des périphéries des villes. Ils peuvent vendre au niveau de ces villes, mais ils peuvent vendre aussi au niveau de l'agglomération de Kayes. Donc on n'est pas or ces zones ne sont pas touchées par les importations de fruits et légumes venant d'ailleurs. Mais si je prends la ville de Kayes elle-même, elle est beaucoup impactée par l'arrivée des légumes du Maroc. Aujourd'hui le Maroc était un grand pourvoyeur de légumes et de fruits dans les villes africaines de façon générale, et la région de Kayes n'échappe pas à cette ils sont vraiment agressifs en termes de ravitaillement des marchés au niveau du Mali.
Ils arrivent en camion en fait, ces légumes.
En camion directement du Maroc, qui traversent la Mauritanie et qui viennent au niveau de la région de Kayes, mais aussi de Bamako et d'autres localités. Bon, fort heureusement, jusque-là, la production locale ou la production nationale n'est pas importante à un certain niveau jusqu'à créer cette concurrence avec les produits venant du Maroc. Je peux dire que c'est complémentaire. Jusque-là, le marché peut absorber ces différents produits.
D'accord. Est-ce que vous avez dû vous affronter à Monsanto ou à Bayer ou autre par rapport à... ou à d'autres, à des semenciers peut-être, par rapport à vos légumes, par rapport à... Tout à l'heure, vous parliez des semences, du coup, type F1, hybride. Celles-ci, elles étaient importées, elles ne venaient pas du Mali. Donc, est-ce qu'il y a une pression, en fait, de ces groupes-là pour continuer à vous vendre, ou est-ce que c'est bon, vous pouvez développer vos semences par vous-même?
Bon, je pense qu'ils sont présents, ces multinationales qui travaillent dans le domaine de la production et de la distribution des intrants. Et jusque-là, au niveau des produits maraîchers, je pense qu'ils impactent considérablement nos activités, parce que tout simplement les semences maraîchères pour la plupart proviennent de l'extérieur. Il y a très peu de semences maraîchères qui sont produites localement ou que les paysans produisent eux-mêmes localement. C'est vrai que le réseau travaille là-dessus et est arrivé à multiplier un certain nombre de semences avec l'appui de ses partenaires. Je fais allusion au Violet Galmi L'Oignon, je fais allusion à la semence de Gombo, mais aussi nous formons les producteurs à produire eux-mêmes leurs semences de tomates. Mais jusque-là, d'autres types de semences comme les choux, comme les carottes, comme ils ne parviennent pas à le produire. Et du coup, ils sont obligés de faire référence à ces fournisseurs de semences pour pouvoir les ravitailler en semences. Mais au niveau des cultures sèches, telles que le sorgho, le mil, le riz, je pense que la recherche malienne a fait un travail assez important à ce niveau pour mettre à la disposition des producteurs des semences qui sont reproductibles, ça veut dire dont ils peuvent les reproduire. Et puis, des petites organisations aussi ont essayé de faire un travail de collecte et de multiplication des semences paysannes qui étaient en voie de disparition et qui aujourd'hui peut permettre ou peut contribuer à l'autonomisation des paysans quant à leurs semences.
Et qu'est-ce qui manque du coup si l'État malien a développé les céréales, enfin les recherches au niveau des céréales, qu'est-ce qui manque pour qu'il puisse développer les recherches au niveau des produits maraîchers?
Je pense que c'est un peu complexe. Je pense qu'il y a une forte pression des multinationales qui sont derrière et qui sont les plus grands financiers de la recherche. Ils préservent leur intérêt. Moi, je vois un manque de volonté politique de nos États à investir dans la recherche par rapport à l'autonomisation de leurs propres producteurs. Donc, il va falloir que le mouvement paysan essaye de mettre beaucoup plus la pression sur les États afin que les budgets nationaux financent beaucoup plus la recherche au lieu que ce soit des financements extérieurs qui financent la recherche et du coup qui maîtrisent les thèmes de recherche. L'autonomisation passe par une volonté politique réelle affirmée par nos États afin de financer la recherche à partir du budget national.
Nous sommes sur Radio Attitude dans l'émission du Piment dans le Punti, l'émission d'Auvergne Solidarité Internationale. Nous faisons une petite coupure au milieu de cette interview d'Ibrahim Sarr. Donc nous écoutons tout de suite la chanteuse malienne Oumou Sangaré et nous écoutons Vasoulou Donne.
Jagbawara donge, kadonge, kakukubu. donke kadonke kamarengoni donke nindi alene ye wasolunga ini waralene ma tulunte wo nindi alene ye nindi alene wasolunga ini wadale ama tulunte sa wasolunga anye wo wasolo bade yakuma de be wasolo anye wo wasolo siji yakuma te ba wasolo Wa wa solo kabaka sa te ba wa solo anye wa wa solo sanule te ba wa solo anye wa wa solo sengene te ba na wa solo ne na wa wa solo moya kuma de be wa solo ne na wa wa solo ba ja wa solo ngadi ni ale ne biringamba ni warale ne ma biringamba.
Comment s'organisent les producteurs à travers leurs organisations pour mettre la pression sur leur État ?
Je pense que le mouvement paysan malien est quand même un des mouvements les plus dynamiques là-dessus. Ils ont réussi pas mal de combats. Je fais allusion à la loi portant sur la gestion du foncier. Aujourd'hui, le mouvement paysan, à travers ses actions de plaidoyer et de pression, a amené l'État à procéder à la redéfinition de la loi portant sur le foncier qui prenait insuffisamment en compte la loi coutumière qui gérait les terres au niveau des différentes localités. Aujourd'hui, c'est chose faite. La loi foncière agricole, elle est disponible, même si il reste encore du travail à faire pour les mesures d'accompagnement qui puissent préserver les terres agricoles. Parce qu'on constate de plus en plus une pression des villes qui pousse de plus en plus vers les terres agricoles. On constate une insécurité totale des détenteurs de propriétés coutumières parce que à chaque fois que l'État ou un capitaliste a besoin de terres, c'est sur ces parcelles que les prélèvements sont faits. Aujourd'hui, il y a une évolution grâce à la dynamique et grâce à l'offensive du mouvement paysan malien dont le réseau contribue substantiellement.
L'accaparement des terres, c'est présent au Mali par des groupes financiers ou coopérations, si on peut dire, avec les États pour valoriser des terres au profit d'exportations. Est-ce qu'on a une idée du volume que ça représente ?
Dans les années 80 et jusque dans les années 2000, on a assisté effectivement à ce phénomène d'accaparement des terres par des multinationales, par des États étrangers qui ont procédé à des achats de milliers d'hectares au niveau principalement de la zone Office du Niger, qui est une zone que tous les États envient en termes de potentiel d'eau, en termes de potentiel de terres et surtout de terres agricoles. Le mouvement paysan n'est pas resté les bras croisés face à cette situation. Ils l'ont dénoncé, ils ont organisé des manifestations qui ont amené l'État à reculer. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que ces terres ont été restituées, mais ça a quand même freiné le processus d'accaparement des terres par des multinationales. Mais il y a une autre forme d'accaparement des terres qui est développée, c'est le fait que les Maliens, même un peu nantis, partent au niveau des villages pour acheter les terres agricoles appartenant à des communautés pour s'en approprier. C'est aussi une forme d'accaparement des terres, mais qui est beaucoup plus nationale, qui ne fait pas appel à des médecins venant d'ailleurs, d'autres pays. C'est un couteau à double tranchant parce que ces types de Maliens dont je parle, qui achètent des terres au niveau des villages, c'est aussi des investisseurs qui viennent avec des moyens pour investir. Mais ça vient aussi au détriment des populations locales qui verront leurs terres de culture diminuer considérablement, qui va jouer sur la sécurité alimentaire de ces villages parce qu'ils auront moins de terres pour cultiver afin de nourrir leur population. Donc c'est un couteau à double tranchant qu'il faut gérer, quoi.
Chez vous, il y a aussi un mouvement de relocalisation de la consommation, oui ?
Oui, par rapport à l'activité que le réseau mène dans le cadre de sa politique de développement, nous incitons beaucoup plus sur la production d'aliments qui rentrent dans le système alimentaire des territoires. Ce qui fait que le premier marché des produits, c'est d'abord les populations locales. Et ensuite, ça touche des populations environnantes. Nous, notre organisation, nous n'avons pas pour vocation de produire pour exporter, mais produire d'abord des aliments que la population a besoin pour sa consommation et éventuellement pour la vente qui puisse permettre aux familles de faire face à des dépenses de santé, des dépenses d'éducation, des dépenses d'habillement.
Bon, pour finir, les perspectives de transformation de l'agriculture africaine, est-ce que vous avez une vision à moyen terme par rapport à vos rencontres avec d'autres organisations agricoles au sein du Mali ou à l'extérieur du Mali ? Est-ce que vous avez une vision sur vers où va l'agriculture africaine ? Une modernisation de type européen, avec plus d'entrants, plus de machines, moins de monde dans le milieu rural, ou plutôt un rééquilibrage avec le développement, par exemple, de l'agroécologie, de petits matériels. Comment se positionne peut-être l'État malien, vous, vos organisations ? Quelle vision vous avez de l'évolution de l'agriculture ?
Alors, nous voyons à moyen et long terme une agriculture qui n'est pas quand même déconnectée des progrès techniques et scientifiques, mais une agriculture qui est beaucoup plus durable, qui préserve les facteurs de production essentiels que sont la terre et l'eau, donc entendez par là une agriculture agroécologique, mais qui s'inscrit aussi dans une sorte de transition. Ce n'est pas une agriculture sans mécanisation, mais quand même une mécanisation légère qui ne perturbe pas trop l'écosystème. Il va falloir que le développement de l'agriculture suive cette croissance démographique à travers une mécanisation légère, mais aussi à travers une maîtrise des intrants que nous essayons de mettre en œuvre. Il faudrait que le paysan, que ce soit une semence améliorée ou que ce soit des types de fertilisants améliorés mais qui sont moins agressifs vis-à-vis de la terre et de l'eau, je vois une évolution vers ce modèle agricole qui est écologique mais qui est progressiste aussi.
Dans ce cadre, vous pourriez servir de modèle pour l'évolution de nos modèles agricoles à nous ?
Naturellement, parce que le modèle agricole que je vois ici et que j'ai eu l'occasion de visiter, je suis sûr qu'elle va finir par s'effondrer si on ne prend garde à travers une utilisation abusive des intrants chimiques. Et je vois ici une diminution d'abord du nombre d'agriculteurs, des exploitations qui de plus en plus ne trouvent pas preneur. Et ça, c'est inquiétant, sachant qu'on ne peut pas reposer son agriculture sur l'importation des produits. Donc, il va falloir trouver un moyen de faire face, de trouver les moyens nécessaires pour assurer la relève au niveau de cette population quand même qui vieillit de plus en plus. Et la relève n'est pas fortement assurée ou n'est pas prise en charge. D'après ce que je vois et que je constate, contrairement en Afrique où nous avons une population extrêmement jeune, mais il faut reconnaître à ce niveau aussi que les jeunes ne sont pas attirés par des activités agricoles. D'où la nécessité pour nous aussi de changer de méthode, d'introduire peut-être d'autres activités qui modernisent davantage l'agriculture et qui peut permettre aux jeunes de venir, parce que le développement de l'Afrique, ça passera par l'agriculture ou rien. Il faut que les jeunes s'intéressent davantage à ce secteur au niveau de l'agroalimentaire. Et pour ce faire, le jeune n'est pas prêt à utiliser les mêmes méthodes que leur père ou leur grand-père. Ils veulent autre chose. Donc il faut l'entendre. Il faut l'entendre et l'intégrer dans les politiques de développement agricole en Afrique. Je pense que c'est en allant vers cette vision, cette façon de voir l'agriculture qu'on peut arriver à la renforcer davantage pour demain.
Très intéressant parce que chez nous, on a un peu le même problème du coup. La motivation des jeunes pour aller vers l'agriculture. Et les jeunes qui s'installent aujourd'hui, beaucoup d'ingénieurs agricoles qui veulent s'installer vont s'installer en groupe sur des modèles diversifiés, plutôt en bio, et c'est pas ces fermes-là qui sont à vendre, qui sont à reprendre. Donc il y a aussi la transition du modèle, nous d'un modèle très conventionnel, intensif, reposant sur beaucoup d'agrochimie et beaucoup de mécanisation, vers des modèles plus durables, plus autonomes, plus diversifiés.
Absolument.
Et en groupe aussi, tout à l'heure vous parliez de la solidarité entre les producteurs, mais c'est ça aussi, c'est se retrouver tout seul à travailler 70 heures par semaine, c'est pas enviable pour les jeunes aujourd'hui.
Absolument.
Donc chez vous, c'est besoin de modernisation, de soulager le travail uniquement manuel. Et chez nous, c'est plutôt retrouver le sens du groupe, le sens de l'humain, le sens de la relation. Et en fait, on voit qu'il y a une convergence, finalement, peut-être qu'on va ensemble vers le même modèle, vers le même genre de modèle.
Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est en cela que les échanges entre nos deux acteurs peuvent nous permettre d'arriver au juste milieu où chacun a à donner. Nous avons à donner tout ce qui est valeur sociale, tout ce qui est dynamique de groupe, dynamique associative, où nous avons longtemps cheminé là-dedans. Aujourd'hui, les agriculteurs français Surtout si on veut amener les jeunes à s'y intéresser, ont peut-être besoin de ce modèle. Je pense que ces échanges d'expériences entre nos deux professions, nos deux agriculteurs, les organisations de là-bas et d'ici, peuvent permettre de faire bouger la ligne et de trouver le juste milieu pour chacun. Nous, dans le domaine de plus de modernisme, et au niveau de la France, c'est vers beaucoup plus de socialisation des activités agricoles.
Merci beaucoup pour votre témoignage et pour tous ces apports. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur les chemins de l'Auvergne ou au Mali.
Je vous en prie, et ce sera avec plaisir.
Nous nous retrouvons donc après cette interview d'Ibrahim Sarr dans l'émission donc du Piment dans le Pounti sur Radio Altitude, émission animée par Anis Étoilé. Ce matin, nous sommes avec Céline.
Oui, donc c'est moi qui ai réalisé cette interview que j'ai pu faire avant la soirée organisée par le CCFD avec une table ronde sur l'agroécologie. Donc cette table ronde, on l'avait aussi inscrite dans le cadre de notre projet Food Justice.
Alors Food Justice, ça veut dire justice alimentaire. Ça s'adresse donc aux jeunes qui ont entre 17 et 35 ans. Et dans le contenu de nos assiettes, donc des choix de société plus juste et solidaire, la nourriture a le pouvoir de nous rassembler, mais aussi de nous diviser. Quand nos systèmes alimentaires deviennent inéquitables, donc quand les paysans d'ici et d'ailleurs ne peuvent plus vivre dignement de leur travail, quand des millions de personnes souffrent de la faim, eh bien, soyons audacieux et audacieuses, les jeunes s'engagent et vont agir donc pour plus d'égalité à une nourriture saine en quantité suffisante à un prix juste, sans dégrader nos ressources naturelles. Donc Food Justice, c'est un accompagnement d'un groupe de jeunes qui va co-construire donc avec Anis Étoilé un événement grand public, un outil de sensibilisation et de la communication donc sur ces questions essentielles de justice alimentaire.
Oui, c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir participer à un ensemble d'événements qui permet d'en apprendre plus sur le fonctionnement du système alimentaire aujourd'hui, non seulement critique, mais aussi constructif, et donc d'où la soirée sur l'agroécologie. Et d'ailleurs, dans cette soirée, dans l'interview avec Ibrahim, mais aussi dans la soirée, on a parlé du ZAI, une technique spécifique donc de l'agroécologie, qu'on retrouve en zone sahélienne. Donc c'est faire des trous dans la terre, mettre un peu de fumier, enfin créer un espace vivant et riche en eau avant que n'arrive la période de pluie. Voilà. Et cette technique-là, on va la voir dans un des films qui a été sélectionné pour le Festival Alimentaire qui aura lieu du 15 octobre au 30 novembre prochain. Donc on vient de finir la sélection au niveau national. Et donc c'est un petit film réalisé au Burkina Faso qui montre la vie d'un paysan qui a redéveloppé une agroforêt dans son village grâce à la technique du ZAI. Voilà, il s'appelle Tapis Vert, hein, et c'est un dessin animé en fait. Voilà, donc on sera très content de pouvoir le projeter à la rentrée, disons dans le cadre du festival un peu plus tard. Et donc c'était aussi important pour les jeunes qu'on accompagne, quoi, de pouvoir découvrir un peu plus ce qu'est l'agroécologie en milieu tropical sec.
Merci Céline pour cette magnifique interview et nous nous retrouvons donc le mois prochain, deuxième mercredi, avec du piment dans le Pounti, donc dans le cadre de l'émission Auvergne Solidarité Internationale sur Radio Altitude. À très bientôt.
À très bientôt.
De l'ouvrage, les tours reprendra zéro. N'ayons pas peur, tournons la page pour construire un monde nouveau.